sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Julien Douminc, Laurent Binder et Philippe Thibault. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, en direct et en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Lucille Como, Muriel Joudet et Corinne Rondeau pour parler ensemble de En guerre de Stéphane Brisé, qui est sorti mercredi dans les salles, Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, sorti lui la semaine dernière, et enfin Deadpool de David Leitch, sorti également mercredi. Boris Pino est là, qui surveille les fils à Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires sur les films dont nous parlons ce soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Vils, fragments urbains, à découvrir jusqu'au 29 juillet au 104 à Paris. Il y a 3 ans, Stéphane Brisé avait présenté La loi du marché en compétition à Cannes. Vincent Lindon avait remporté le prix d'interprétation masculine. Le duo est de retour sur la croisette avec En guerre, dont le synopsis est le suivant. Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide la fermeture totale du site. Les 1100 salariés, qui sont emmenés par leur porte-parole Laurent Amedeo, refusent évidemment cette décision et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous ?
Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Où ? Vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock.
Ouais, voilà.
Écoutez, non, mais c'est sans appel.
La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise.
Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise.
Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices.
Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ».
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire ? Qu'est-ce que deviennent les salariés ? On sent personne dehors ! C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères ! Allez où la parole ? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble.
On n'a plus rien à perdre.
Je vous demande de partir.
C'est illégal.
Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas.
C'est fini.
Regarde,
c'est
fermé,
fini,
cette
usine.
On est en train de crever et on se fout sur la gueule.
S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer.
Voilà, je crois que la bande-annonce dit un peu ce qu'est ce film, que moi je n'ai pas encore vu. Donc je suis tout oui, mais comme d'habitude, pour savoir ce que vous avez pensé de ce En guerre de Stéphane Brisé. On commence avec Muriel Joudet. d'accord, ça commence bien Muriel. Bah, peut-être on pourrait tousser avant.
Oui, excusez-moi, c'est voilà, dès qu'on annonce le titre du film. Non, ça fait partie de ces films à Cannes qui sont pris pour leur sujet, hein, parce que on voit bien que le film n'est pris que pour ça et permet au festival, voilà, d'avoir une sorte de vernis politique dont il a toujours besoin chaque année. Et on sent que le sujet ici atomise tout le reste. Hein, il prend la place de tout. Bon, il y a aussi Vincent Lindon qui prend la place de tout, mais disons qu'il y a, voilà, c'est un sujet, il n'y a que ça. Il y a de la mise en scène et on peut en parler, mais elle est tellement simpliste qu'elle se définit, elle se résume en quelques termes, puisque la mise en scène de Stéphane Brisé est extrêmement disons qu'un un élève de CM2 pourrait la résumer avec ses propres mots. C'est des très longues séquences filmées en caméra portée, et puis la tension monte et monte et monte. Et donc voilà, on a des tableaux comme ça qui sont à la chaîne et assez épuisants à regarder. Puis parfois, on a des scènes de journaux télévisés, de BFM, France 2, qui nous montre donc la lutte de ces syndicalistes face aux méchants capitalistes. Alors moi, je me suis vraiment demandé devant le film, je me suis vraiment dit, pourquoi c'est un film de gauche? Qu'est-ce que Briser, avec sa grammaire, est-ce qu'il remplace quelque part ce qu'on connaît déjà des images du syndicalisme qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les documentaires, dans les reportages télévisés? Et je me suis dit que c'est exactement la même chose. Pour moi, la grammaire télévisuelle et la grammaire de Stéphane Briser, c'est exactement la même chose. Ce que je vois du syndicalisme selon Briser, c'est ce que je connais déjà du syndicalisme. Il y a vraiment absolument tous les lieux communs, tous les personnages sont là. Alors ceux qui baissent les bras, et puis Vincent Lindon qui essaye de motiver les troupes. Donc je ne comprends pas pourquoi, pour moi, un cinéaste de gauche est censé remplacer donc les mauvaises images par des bonnes images du syndicalisme. Pour moi, c'est ça, un cinéaste de gauche. Briser n'est pas un cinéaste de gauche parce qu'il n'est pas, selon moi, un cinéaste. Hein. Pour moi, il y a une sorte de pauvreté de la mise en scène, même une idiotie de la mise en scène qui fait que, pour moi, le film est absolument vide de sens. Donc, je me suis posé des questions comme ça de mise en scène, des considérations qui ont duré une heure, et puis très vite, j'ai compris que le film n'était ni un film de gauche, ni un film sur le syndicalisme, ni même un film neutre sur le syndicalisme. C'est un film sur Vincent Lindon. C'est un film sur le chef charismatique du cinéma français qui motive ses troupes et qui, donc je ne vais pas raconter la fin, mais ça se termine héroïquement pour lui. Et ça m'a, et donc c'est ajouté à ces considérations d'un film totalement vain, quelque chose de totalement obscène, parce que en gros, le héros du film, c'est aussi la star du film, et le reste des acteurs qui ne sont pas connus, finalement, ne sont pas les héros du film. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement obscène qui fait presque le jeu du Festival de Cannes, au sens où la star, l'acteur, l'emporte sur le reste, sur toutes les considérations. Et donc, pour moi, je vois juste un Lindon movie. Je ne vois que ça à la fin, et la fin qui est assez quand même... délirante, je dois dire, finit d'éclairer le film de cette lumière qui, pour moi, est une sorte de voilà, un cinéaste totalement amoureux et fasciné par son acteur. Lindon est très bon, hein, il faut le dire, il joue très bien le prolo et il le joue un peu trop bien selon moi. Mais voilà, cet héroïsme qui provient de la star est selon moi très dérangeant. Et donc voilà. Bon,
dérangé, Lucile Como, par En guerre de Stéphane Briser.
Bah, en tout cas parce que disait Muriel à l'instant, c'est-à-dire le rôle au sens propre de Lindon dans le film, qui en effet, pour décrire aussi un petit peu la mise en scène, en effet la caméra est portée en permanence, donc ça donne un effet de mouvement qui ne se fixe en fait que sur la figure de Vincent Lindon. Enfin, on a vraiment l'impression, et c'est un peu un problème pour le coup politique, esthétique et politique, que la caméra a besoin de Lindon pour faire récit et pour faire avancer son film, parce que sinon ça bouge en permanence. Donc il y a vraiment Lindon comme aimant permanent de la narration. Et c'est un problème parce que, d'ailleurs c'est assez symptomatique, tous les personnages s'appellent comme les acteurs, sauf lui, qui a un nom qui ne s'appelle pas Vincent Lindon dans le film, qui s'appelle Laurent Amédéo. Et immédiatement, il y a une différence qui est une différence évidemment politique entre tous les personnages et lui, alors qu'il est un syndicaliste parmi d'autres. Et en effet, la fin accrédite totalement ça. Enfin, c'est difficile de parler du film sans parler de sa fin, parce que c'est un échec politique absolu, dans la mesure où, sans en dire trop, c'est quand même un élan collectif, hein, le collectif politique qui se transforme en la douleur individuelle. Donc il y a quand même quelque chose de problématique.
C'est mystérieux. Après, ce que vous dites, hein, pour celui oui, non, qui, comme moi, n'a pas vu le film. Clair.
Non, mais je vais rentrer un peu dans le vif, parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est sur l'utilisation justement des sujets type télévisuel, et sur ce que ça fait sur le propos, sur le fond politique. Il y a une séquence où les salariés rencontrent le grand patron, ils exigent de le rencontrer, ils finissent par le rencontrer, donc il y a un PDG allemand, et à ce moment-là, on entre dans la salle avec les journalistes qui sont là pour couvrir le sujet, et les caméras sortent. Nous, on reste. En tant que spectateur, on reste, et là, c'est là la différence entre un sujet BFM et le film. C'est qu'on reste à l'intérieur de la réunion. Réunion qui, en effet, est insupportable d'injustice dans ce qui se passe dans le rapport de force entre les salariés et le PDG. Et à la fin de cette séquence, directement, on enchaîne sur une séquence type BFM TV, qui est tournée exactement comme une séquence BFM TV avec le logo, et qui est la violence arrivée à son paroxysme, où, en gros, le patron se fait lyncher. de manière assez violente. Et là, il y a quand même quelque chose qui se dit. C'est-à-dire que nous, on a assisté à ce qui se passait, donc on a compris
qu'est-ce
l'escalade.
Qu'est-ce qui conduit
voilà.
à cette situation-là ?
Il y a une tentative là de faire vraiment le contre-pied du discours politique actuel et qui est largement relayé par la presse, de différence entre les bons manifestants et les casseurs, par exemple, ce qu'on appelle les casseurs, qui n'a absolument pas de sens politique. Là, pour le coup, il y a un essai de faire quelque chose de ce point de vue-là, dans la mise en scène cinématographique. Sauf que ça ne fonctionne pas, à mon avis, à cause de Vincent Lindon qui leste le tout. Et d'ailleurs, c'est très révélateur, Vincent Lindon, à ce moment-là, du lynchage. Il n'est pas dans l'image. Je l'ai vraiment cherché. Il est à peine à l'image. Il est dans un coin. Évidemment, ce n'est pas lui qui va faire trop de mal au PDG allemand. Donc, il y a une contradiction dans les termes même, dans la forme même, qui fait que le propos est invalidé par, vraiment par l'évolution de la mise en scène et du film.
Petite parenthèse, les casseurs, ça veut dire quelque chose, hein, Lucille Comeau. Je vous avais dit ça au détour d'une phrase.
Je ne suis pas sûre.
Ah bon ? Bon, enfin, c'est peut-être pas le sujet. On va faire un grain à moudre. Vous en échangerez avec Gardette pour parler des casseurs. Corinne Rondeau sur En guerre de Stéphane Brisé.
Ouais, bah, je suis d'accord, mes camarades. Vous savez, il y avait René Viennet qui avait participé à la dialectique peut-être casser des briques, qui disait on ne lutte pas contre l'aliénation avec des moyens aliénés. Et effectivement, quand le film commence par une image de BFM et finit par une image de portable, c'est-à-dire qu'on est dans un registre d'images ultra dominantes qui sont les réseaux sociaux et la télévision. Et là, je rejoins vraiment ce qui a été dit notamment par Muriel, c'est-à-dire que le dispositif narratif est aliéné au dispositif de l'ultra domination de certains types d'images. Autrement dit, il n'y a pas de cinéma dans ce film. Et effectivement, quand on le dit, comme le dit Muriel, je veux dire, c'est un film à sujet. Mais le problème du cinéma, c'est quand même savoir comment on fait une forme avec un contenu. Donc, soit vous faites un film politique à la Peter Watkins, qui est justement rendre, je dirais, au fond sa forme, inventer un cinéma à travers, sans se désalier, enfin, s'aliéner soi-même à son propre sujet, je dirais, cinématographiquement parlant. Donc, c'est absolument détestable. C'est le film le plus démagogique qu'il y a sur les écrans aujourd'hui. Parce que quand vous utilisez ce dispositif visuel pour faire un dispositif narratif qui véhicule des messages, c'est-à-dire du contrôle de l'opinion. Et non seulement Brisé est peut-être sous la domination du regard qu'il a sur Vincent Lindon, qui est effectivement surreprésenté dans ce film, mais pire encore, je dirais, c'est vraiment quelqu'un qui fait un film dans la, où le politique n'a aucun sens. Il n'y a pas. Je veux dire, le fait même de donner à Vincent Lindon le rôle d'un syndicaliste cégétiste, qui est le jusqu'au boutiste, est une manière de dire, voyez, on ne va pas parler de politique, on va parler d'aller jusqu'au bout des choses, dans lequel les questions de solidarité n'arrivent qu'à la fin, de manière, je dirais, désastreuse, et toute la question repose sur, dans le film, de Vincent Lindon qui n'arrête pas de dire le mot de parole qu'on a entendu dans la bande-annonce. Donc, non seulement le film n'est pas à la hauteur de la parole, puisqu'en fait, ce qu'on voit, même si Brisé fait sortir, effectivement, vous avez bien fait de la remarquer, parce que c'est une scène qui fait
exprès. C'est de la réunion avec le patron.
Elle est conçue pour nous dire, vous restez avec nous. Vous êtes du côté de ceux qui participent à ça et pas à la télé. Donc c'est même pas de l'écriture, c'est une prise d'otage du spectateur. Et donc, à un moment donné, on a envie de dire, bon, écoutez, arrêtez de prendre des gens qui ne sont pas des acteurs pour nous faire croire que c'est leur parole à eux, alors que c'est vos dialogues à vous, hein, et que par ailleurs, je dirais, il faut savoir aussi faire avec une parole qui n'est pas la sienne quand on veut s'engager dans un combat politique, etc. Donc grosso modo, soit ce film est un film militant, cégétiste, ben, je leur souhaite bien du plaisir aux syndicalistes et aux militantistes, parce que c'est grosso modo, il n'y en aura plus où ils sont morts, ou pire, on va voir. Et puis, ou alors sinon, c'est effectivement, quand on ne sait pas faire de cinéma, comme c'est le cas de Stéphane Brisé, eh bien, on fait un appel du pied au public, parce que effectivement, je dirais que ceux qui vont voir du cinéma français, middle class, etc., c'est des gens qui, comme tout le monde, souffrent d'une certaine situation économique et sociale. Donc, je trouve que ce film est putassier.
Bien. Lucille Comeau, j'en perds mes mots. Et mais non.
Oui, juste sur la question de l'utilisation des moyens dominants, typiquement de la télévision et de la radio, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, dans la logique même de Bordienne et situationniste, on peut justement utiliser, en compilant ce type de discours dominant, pour en faire quelque chose. Et moi, franchement, quand le film a commencé comme ça, parce que c'est le début, je crois que c'est BFM ou c'est France 2, je me suis vraiment pas braquée là-dessus. Je me suis vraiment dit, ah bah pourquoi pas essayer de détourner en compilant presque jusqu'à l'épuisement, ça peut avoir un effet, je pense, sur le spectateur. Et je ne serais pas aussi sévère sur le simplisme du discours. Je pense qu'il est très très mal servi par la mise en scène et, à mon avis, encore une fois, par le fait que Vincent Lindon ait autant de place. Mais il y a des choses qui affleurent, qui sont intéressantes dans les rapports de force. Par exemple, c'est pas si duel que ça. Il n'y a pas d'un côté les salariés et d'un côté les méchants capitalistes. Il y a l'État qui est au milieu, qui a un rôle assez intéressant. Moi, je trouve que c'est assez instructif. Bon, après, vous allez me dire que ça ne suffit pas pour faire un bon film, et vous avez raison. Mais je veux dire, il y a quand même des choses pas totalement intéressante sur le rôle de l'État et son justement non-rôle dans l'arbitrage de ce type de conflit. Les scènes de réunion prises en tant que telles, sur justement la parole, la manière dont la parole circule, parfois c'est intéressant. C'est du cliché, mais je pense que ce cliché, c'est précisément ce qu'on entend dans ce genre de réunion, et c'est pas inintéressant de le représenter comme ça. Donc moi, il y a des choses qui m'ont pas totalement inintéressée, je serais pas aussi sévère. Je pense que c'est maladroit et mal fait, mais que l'intention de départ, elle est pas si mauvaise dans justement la représentation des rapports de force.
Corinne Rondeau ?
Non, mais vous avez raison de pas vouloir être méchante, mais... Enfin, ce sont vos raisons. Par rapport à la dialectique, peut-être casser des briques, parce que c'est une époque. Et je pense que le fait de mettre les pieds dans le plat, comme les situationnistes, c'est autre chose que ce que fait quand même Brisé. Je veux dire, il faudrait voir quand même tous les films de 68 ou 74 que Peter Wilkins ou Javik Villemont, c'est-à-dire la reprise du travail des usines Vendère. Bon, là, on a des gens qui parlent, on a des militants qui parlent, on a des syndicats qui parlent. Évidemment, c'est pas les mêmes époques, mais quand on est Stéphane Brisé en 2018 et qu'on est soi-disant cinéaste, on a quand même une histoire cinématographique et on a envie de dire, si tu veux faire un cinéma pour dire aux gens qu'ils souffrent et qu'il faut s'identifier à ça, parce que si c'est ça, si c'est ce qui nous, si la fin du film de Brisé, c'est ce qui attend les gens aujourd'hui en France, mais il a qu'à nous envoyer aux pompes funèbres direct. C'est une honte de prendre le cinéma en otage et de ne pas inventer de forme pour penser que les spectateurs dans la salle peuvent s'identifier à autre chose que la misère qu'on leur met dessus. Faut arrêter avec ça.
Pardon,
mais Lucie, c'est pas contre. Non, mais justement, je le prends pas du tout contre moi. Non, mais justement, je trouve que là où vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est que c'est un film vraiment absolument désespérant. Je pense qu'il fait en effet pas exprès de l'être, mais il l'est profondément, et que à un énième niveau de réflexion, c'est pas inintéressant de voir dans ce film l'échec absolu, mais absolu, de la représentation d'un quelconque collectif politique. Enfin, moi, ça me frappe à quel point dans le cinéma français, c'est difficile. J'ai revu, pour l'autre film dont on va parler après, 120 battements, enfin, j'ai vu parce que je ne l'avais pas vu, 120 battements par minute, et il y a des choses communes dans la manière de représenter une réunion politique, un débat, une manifestation. On n'arrive pas à le faire. Vraiment, ça bloque, quoi.
Muriel Jodet.
Bien, c'est vrai que devant le film, on se dit là, le cinéma fait écran plus qu'il ne révèle, et qu'on s'attend en fait à avoir un documentaire sur le sujet. Il y en a plein qui existent en festival. Il y a énormément de documentaires sur le sujet. Il y a même à son niveau, Merci Patron. Voilà ce que c'est en fait des gens qui se battent. Et il y a un côté en fait dans le film de Brisé, le fait que le film, non mais prenne une star, ça, il y a vraiment un côté presque totalement obscène, c'est-à-dire en gros je peux vous intéresser au combat syndical que par le truchement d'une star, je vais remplir les salles parce que vous allez venir pour Lindon et en fait on va vous parler de politique. Il y a un peu un côté comme ça qui pour moi est problématique dans le film, puisque c'est vraiment ça, et peut-être que les gens n'ont pas envie de voir, le film suppose ça je pense, les gens n'ont pas envie de voir des vrais syndicalistes, peut-être qu'il y a un côté comme ça, ou en tout cas on doit passer par une star pour intéresser les gens à ça. Pour moi, il y a vraiment un problème. Au sens où le cinéma, là, vraiment, cache plus qu'il ne révèle, en tout cas, celui de Brisé.
Bon, ça s'inscrit dans toute une histoire du cinéma qui emploie des stars pour...
oui, bien sûr. Je parle vraiment dans ce que raconte le film. Ouais. Et surtout la fin, en fait. Moi, je regarde
J'ai pas vu ce film, alors vous parlez de la fin, ça reste énigmatique pour celles et ceux qui l'ont pas vu.
Parce que ça se regarde sans déplaisir, moi, ça m'intéresse et tout. Après, à un moment, c'est suffocant. Et puis la fin, en fait...
désespérante.
Ouais,
vous voulez dire un indice?
Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a une forme de
Vincent Lindon est le seul personnage qui a un destin. Et à la fin, ça se révèle vraiment. C'est-à-dire qu'un regard rétrospectif sur le film laisse entendre que c'est le seul qui a une sorte de trajectoire vraiment narrative. Enfin, et c'est le seul aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais qui a bénéficié, entre guillemets, d'excursion. C'est-à-dire que le film est entièrement tourné autour de la lutte, sauf pour ce personnage dont on a un petit peu, mais quand même, et surtout à la fin, accès à la vie privée. Donc du coup, ça lui donne une épaisseur que les autres n'ont pas, et c'est injuste. Enfin, on le ressent comme une profonde injustice, je trouve, en tant que spectateur.
Alors, quelques commentaires d'autres spectateurs par la voix de Boris Pino.
Oui, pour Christophe Despot, depuis Facebook. En guerre essaie de se placer à hauteur de lutte, mais ce qu'il en montre est tellement attendu que le film ressemble à un produit générique. Brisé fait mine d'exalter les vertus du collectif, mais ne voit pratiquement que Vincent Lindon, dont l'iconisation sacrificielle finit par paraître totalement factice. Antoine Courbeau, sur Twitter, écrit sur un film percutant de bout en bout. La vie, la vraie, à l'écran. Et un mot de Violette Villard, construit comme une tragédie grecque, arc-bouté et sans rémission, le film de Brisé fabrique à flanc de nuque un haut-le-corps de la parole plus réel que le réel, qui ne propose aucune échappée, aucun hors-champ, entêtant et radical.
Bon, vous avez un peu contrasté, Muriel Joudet, un dernier commentaire, un dernier tour de table peut-être sur En guerre de Stéphane Brisé.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté film coup de poing, et enfin désolé d'y revenir, mais je suis sûre qu'à Cannes, il y a eu une scène Igovèche. Enfin, c'est fait pour ça.
17 minutes d'applaudissements.
Voilà, ben voilà. C'est,
à la suite des projections.
C'est terrible, mais ça fonctionne comme ça. Ça marche.
On verra le palmarès de m'asseoir.
Très grégaire, en fait, et je pense qu'en une salle de 2000 personnes, et ben, peut-être qu'on est pris par... ça me désespère, mais peut-être qu'on est pris par l'émotion.
Corinne Rondeau, dans les mots.
Oui, bah tout... enfin, il y a beaucoup de critiques aussi dans la salle. Il n'échappe pas au contrôle de l'opinion. Hein.
Oui, mais disons, je pense que le sujet, alors quand j'ai lu quelques critiques, le sujet a. Beaucoup de critiques évoquent plus le sujet qu'autre chose, en fait. On peut vraiment faire.
C'est un problème.
Aujourd'hui, un papier la critique, sur le sujet. Si la critique s'arrêtait un peu de penser tout le temps au sujet, notamment quand c'est social, parce que quand c'est social, il faut aller dans l'opinion générale. Donc là, il y en a ras-le-bol. Que les gens sortent les yeux. Qui regardent à nouveau le cinéma, mais qu'ils arrêtent de nous saouler.
Lucille Como.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un film assez confortable. Enfin, je veux dire, on a exactement ce qu'on vient voir et ça. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller manifester derrière parce qu'on a l'impression de s'être acheté une bonne conscience. Je pense qu'il y a en effet beaucoup de ça. Après, sur le fait attendu, je ne sais plus qui disait sur les réseaux sociaux que c'est attendu. Bah, de fait, enfin, je veux dire, ça fonctionne comme ça, la fermeture d'une entreprise. Et pour le coup, encore une fois, je pense que sur le fond de la valeur un peu pédagogique qui est une des intentions du film, c'est pas bête en tout cas. On a parler de bêtises, pour le coup, je crois pas que ça le soit, parce que c'est quand même une forme de réalité et qui est complexe. Et à mon avis, la rend dans une certaine mesure, dans sa complexité.
Post-scriptum, Corinne Rondeau.
Non, mais il est important que le sujet de l'injustice, de la question de la condition des ouvriers, de ce qu'on vit aujourd'hui, ait une place au cinéma. Mais je voudrais que ce soit du cinéma. Bon, je rejoins Lucille sur la proposition de filmer ça, et je suis bien consciente de ce qui se fait, hein. Mais moi,
mais
cinématographiquement, je suis désespérée, quoi.
Nous parlions d'En guerre de Stéphane Brisé qui est sorti sur les écrans cette semaine. À suivre dans la dispute, le nouveau film de Christophe Honoré, également en compétition à Cannes, et puis Deadpool 2.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma avec un deuxième film qui représente les couleurs de la France dans la compétition officielle de Cannes cette année, c'est Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. L'écrivain, metteur en scène de théâtre et cinéaste est souvent venu à Cannes, que ce soit à la quinzaine des réalisateurs ou en sélection officielle comme avec les Chansons d'amour qui restent à ce jour son plus grand succès en salle. Pour son retour à Cannes, Christophe Honoré suit l'histoire d'amour d'un écrivain parisien et d'un jeune étudiant rennais. Nous sommes en 1990, le premier proche de la quarantaine est malade du sida et la vie amoureuse du second débute visiblement avec cette histoire.
Bon, j'ai rencontré un parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
Non, mais t'es complètement conne ou quoi?
Je suis pas sa femme, je suis juste une amie. Lolo est son fils, je suis la maman de son fils. Jacques est très fort pour compartimenter sa vie.
Et moi? Ah, pardon.
Je suis Mathieu, un ami de Jacques.
Alors tu l'as trouvé comment?
Je l'imaginais plus mignon.
Allez, viens. Je vais à Rennes voir mon Breton bizarre.
Just one moment.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens.
J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement.
Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans?
Non, je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça.
Ah. Bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense.
T'es déjà venu chez nous?
C'est ton père, ouais.
Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
Je pars vivre à Paris.
Vous allez me manquer.
Tu sais qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux.
C'est un bon programme, ça, de se faire une belle vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bon. Lucille Gaumont, on parle de plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré.
Ben, il y a un sens de la formule et de la langue chez Christophe Honoré. D'ailleurs, le titre est assez beau, je trouve. Et il résonne vraiment, à mon avis, comme un programme de tout le cinéma de Christophe Honoré, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui courent en se disant qu'ils s'aiment dans le cinéma d'Honoré. En l'occurrence, c'est un film qui m'a laissé assez froide. Je ne sais pas exactement comment dire, mais c'est peut-être pour ça que ça m'a plu. Et il faut peut-être d'abord dire que le titre n'est pas très révélateur, à mon avis, de ce que ça procure, parce qu'on s'attend du coup à une sorte de frénésie et à ressentir beaucoup d'émotions. Or, on ressent assez peu de choses, enfin, moi ça a été mon cas, alors que le sujet est quand même assez énorme, puisque bon, voilà, une dernière histoire d'amour, une dernière romance, comme dit le personnage principal, avant de mourir. Il y a du film d'agonie, du coup, dedans. Il y a aussi du film d'apprentissage, puisqu'il y a ces deux générations qui se croisent. Mais on reste très à l'écart, très à distance, à mon avis, pour le coup, pour des raisons de mise en scène, qui a, comme toujours, je trouve, chez Christophe Honoré, quelque chose de très scolaire. On sent beaucoup des multiples références que moi, je ne connais pas parce que je n'ai pas une très grande cinéphilie, mais une connaissance du cinéma. Mais je pense qu'il y a énormément de références dans les gestes qu'il applique à ses acteurs, dans les décors, etc. On est toujours à la limite de la chorégraphie, dans la manière dont les personnages se placent dans le plan. Il y a des couleurs qui sont toujours parfaites. Ça m'a frappé dans un des derniers plans, parce qu'on est censé quand même atteindre un des climax, j'allais dire, mais c'est un
vous l'avez dit, ça y est, vous l'avez dit.
Voilà, je l'ai dit.
Un gage.
Voilà, point d'orgue de la douleur et de la peine. Et le personnage principal est adossé contre un mur à côté d'un ascenseur. Et on voit quasi littéralement la peinture fraîche sur l'ascenseur qui est bleue comme les yeux du personnage et la couleur du mur et comme sa veste. Il y a quelque chose de très fabriqué qu'on voit en permanence et qui a un côté un peu publicitaire si on est méchant et maniéré si on est gentil. Alors moi, je vois plutôt le côté maniéré, ça ne me gêne pas tant que ça. Et dans un second élan, j'y vois quelque chose d'assez émouvant, parce que je pense qu'il y a une mise à distance qui est presque nécessaire de la part du réalisateur, parce que c'est une matière très autobiographique et très douloureuse pour lui. Et du coup, dans cette manière de faire quelque chose de très littéraire, de très esthétisant, et je pense qu'il y a pour lui vraiment quelque chose d'une mise à distance de l'expérience qui me touche personnellement assez. Voilà, après on pourra revenir peut-être au jeu des acteurs parce que c'est quand même aussi un peu problématique, mais je laisse la parole.
À Corinne Rondeau en l'occurrence.
Oui, alors, c'est pas de chance quand... Non, mais on a eu 120 battements par minute l'année dernière, donc c'est quand même une prise de risque plutôt assumée. Enfin, c'est un peu casse-gueule aussi d'arriver avec un film, encore les années 90, juste avant qu'on trouve la trithérapie. Donc on est la même période, l'année dernière c'était la folie avec ça, bon moi j'avais pas aimé les 120 battements par minute de Robin Campillo, mais par ailleurs vous savez qu'encore avant il y avait Théo et Hugo dans le même bateau que moi j'avais adoré, qui reste voilà, le film pour moi le plus important sur, je dirais, une vision gay, homosexuelle de la vie aujourd'hui avec le virus du sida, puisque ces trois films traitent quand même de cette maladie. Hein. Mmh. Mais il y avait la maladie au présent et puis il y a la maladie des années 90. On a Robert Campillo et Christophe Honoré qui sont des cinquantenaires. C'est-à-dire qu'ils sont entre le virus du sida, l'épidémie et le mariage pour tous. Mmh. Et donc, après le mariage pour tous, quand même, il y a une production. Qu'est-ce qu'on a vécu à une certaine époque? On a vécu des années d'or, de sexe, et puis on a vécu la maladie. Et puis aujourd'hui, voilà, il faut reparler de ce temps avant ça. Et je trouve que le film de Honoré, il a quelque chose de... Alors, si la vision est militante chez Campillo, là, elle est pour le coup plus intimiste. Il y a même un moment où Pierre Deladonchamp, qui joue Vincent, l'écrivain, dit « Ah non, il va pas aller à Act Up, Arthur, j'arrive à lui faire du mal. » Donc on voit bien, c'est une manière de dire, Honoré, une manière de dire « Ne regardez pas ce film avec les yeux de 120 battements par minute, je ne fais pas du Campillo. » Il y a déjà ça. Et c'est aussi un film qui nous fait visiter Paris, puisque c'est un jeune breton, Vincent, joué par Vincent Lacoste, dont j'aimerais qu'il articule. Hein, tout le monde l'adore, moi j'aimerais qu'il l'articule.
Moi, je
il y a des mots que je ne comprends. Oui, mais il rit tout le temps, donc forcément on a envie de rire. Mais ouais, bon, moi, il m'a un peu agacé.
C'est plus fin que ça, me semble-t-il.
Et, ouais, bon, bref, bon, là, c'est pas là qu'il aura été le meilleur, je trouve. Mais, et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Mais
vous aimeriez qu'il articule. C'est Paris vu par le jeune breton.
Et alors,
qui était Christophe Honoré dans son jeune âge.
Oui, mais il va récupérer aussi quelque chose de. J'avais eu l'impression qu'il reprenait des éléments de des films précédents pour continuer une histoire finalement. Alors, moi j'ai été gênée parce que, j'ai pas vécu de moment émotif, j'ai pas d'émotion du tout dans le film. Par contre, j'ai beaucoup aimé Denis Podalydès qui donne le seul relief au film que j'ai trouvé formidable, sa grosse moustache.
Il est exceptionnel.
Et j'aurais adoré le voir en cuir, pour le coup. Donc, mais moi, j'ai trouvé que le film avait manqué.
Non, ça surprend Lucille Comeau.
On est censé quand même être dans les années 90. Je n'ai pas vu les années 90. Non. C'est une manière de dire peut-être qu'il s'adresse.
Je pense que c'est fait exprès.
Oui. Alors, il s'adresse. On l'entend dans la bande-son, les années 90.
Ouais, ça, j'ai bien compris. Your Ring de Cocteau Twins et Pigeon. Cache-cache parti, bon, c'est toute notre jeunesse, quoi. Mais bon, le film m'a pas du tout intéressée. Je l'ai trouvé triste parce que j'ai trouvé qu'il y avait une absence de libido absolue dans ce film. Je veux dire, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie, sauf au bout d'une... Le corps, il arrive avec une perfusion. Et, mais non, mais pour moi, c'est ça. Mais par contre, j'ai été très émue par l'abandon et le renoncement de la scène finale. Que j'ai trouvé juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand justement vous ne voulez pas traiter du... Parce que c'était ma critique sur le Campillo, il n'y avait pas de corps, pour moi, il n'était pas à sa place, etc. Là, comme il est dépossédé dans le film, finalement, cette dernière scène est une scène de renoncement, d'abandon. Et j'ai trouvé qu'il est... Grosso modo, cette dernière scène m'a réconciliée avec cette absence tout le long du film où je n'ai pas trouvé mon... Je n'ai pas trouvé de plaisir, j'étais attristée. Je me suis dit peut-être que le mariage pour tous a normalisé beaucoup de choses dans la communauté homosexuelle, ce que je crois et je le crois vraiment. Ouais. Et je crois qu'en fait, la communauté homosexuelle qui a quand même beaucoup inventé, qui s'est quand même beaucoup battue, qui est passée par cette forme de normalisation, je crois que ça enlève quelque chose. Et j'attends en fait la nouvelle génération dans 20-30 ans d'homosexuels qui se ressaisiront de ce moment des années sida par ceux qui ne l'ont pas vécu, donc cette nouvelle génération, pour nous redonner de l'énergie, pour nous redonner des forces, de la vitalité, du corps et des combats, et pas les combats de on les a vécus, je voudrais vous les montrer pour pas qu'on oublie les miens. Et il faut attendre aussi, et il faut aussi oublier, moi je suis un peu. Je trouve qu'il y a une. Honoré, je l'ai trouvé beaucoup plus saillant ou à d'autres films. Là, je l'ai trouvé, je vous dis, libido très, très...
Très basse.
Très basse, ouais.
Muriel Jodet, sur plaire, aimer et courir vite.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu... À la fois, il y a deux choses. Il y a le voyage dans les années 90 et on pense à Make to My Love qui aussi voyage dans les années 90 à sa façon. Donc, c'est assez drôle de voir que les années 90, maintenant, font partie du cinéma pour certains cinéastes. Et puis, donc, les années sida. Donc, j'ai vu là aussi la série de Philippe Faucon qui est un peu un entre-deux entre le film de Campillo et le film d'Honoré. C'est-à-dire que c'est le politique et l'intime mêlé. Sauf que, bon, le politique finit par prendre le pas, je trouve, à mon sens. Mais bon, on n'est pas à la dispute série. Et donc,
On en a dit.
Oui, je sais que vous en avez parlé.
Quelques petites choses la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus.
Et c'est vrai que j'y suis allée avec beaucoup d'enthousiasme, en oubliant que je n'avais jamais vraiment aimé Honoré, à part dans Paris. Enfin, j'avais beaucoup aimé dans Paris.
Ah,
et
moi
sinon,
aussi, tiens.
Et c'est très bizarre, je revais voir ces films à chaque fois avec l'idée que ça va me plaire. Et puis je finis au bout de 30 minutes par comprendre que non, ça ne me plaît toujours pas. Et je rejoins vraiment Lucille sur ce qu'elle a dit sur le sens de la formule et sur le fait que ça nous laisse totalement. Le film nous laisse froid. Alors moi j'irai un peu plus loin, un peu plus violemment parce que il y a tous les signes extérieurs du film d'auteur. Tout est très joli, comme dit Lucille. Les costumes, la musique, vraiment tout est splendide. La lumière est très belle. Il n'y a aucune faute de goût. Et justement, tout ce bon goût fait totalement écran à l'émotion. Alors que Christophe Honoré, c'est quelqu'un qui se réclame quand même de Demi, de François Truffaut, d'un cinéma quand même à la fois littéraire et très articulé, mais toujours très sentimental et émouvant. Et là, il n'y a absolument aucune émotion qui n'arrive parce que ce n'est que de la surface. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'un cinéma que j'appellerais ventriloque, au sens où peu importe qui parle dans le film, j'ai l'impression de voir Honoré. Pour moi, c'est vraiment le monde, je ne vois que la volonté du cinéaste. Alors c'est très bien de sentir la volonté du cinéaste, mais là c'est trop. C'est-à-dire que de la chemise de Delà Donchamp au dialogue de Vincent Lacoste, à la moto, aux chaussures, au vinyle posé contre le mur, tout, c'est vraiment Christophe Honoré redécor. Voilà, c'est plus, voilà, donc il y a un côté déco. Et puis j'ai même appris que Honoré avait, c'est à la fois une belle anecdote, mais qui en dit beaucoup, avait donné à ses deux héros un parfum qu'il devait mettre tous les jours sur le plateau. Et donc c'est une assez belle idée. Mais quand on voit le film, on se dit, bah voilà, en fait c'est ça, c'est une pub pour parfum, faut sentir le vétiver sur le plateau. Donc c'est un peu à double tranchant. Et j'ai retrouvé cette citation de Danet que j'avais déjà lue au moment de des bien-aimés. Et je trouve que ça colle totalement à Christophe Honoré. Il dit, donc, à propos du maniérisme, et Lucille parlait de ce cinéma très maniéré, il dit « Il n'arrive plus rien aux humains, c'est à l'image que tout arrive. » Et pour moi, c'est ça. C'est 2h12 où tout arrive à l'image, mais, donc à la surface, à la vitrine, et jamais au personnage. Donc je vois des acteurs, je vois un cinéaste qui orchestre les scènes, je vois j'entends une bande-son, mais je vois pas de personnage, je vois pas de sentiment, je vois pas de situation, je ne vois rien de tout ça. J'ai l'impression d'être en fait toujours sur le tournage et de voir un documentaire sur le tournage, et je pense à cette scène donc, où Delà Donchamp explique au téléphone à Vincent Lacoste les différents types de blonds qu'il y a. Donc il y a le blond Walt Whitman,
le blond blanc,
je sais pas quoi, voilà. Donc c'est très, disons que c'est très distingué, c'est très spirituel, c'est très élégant. Mais à force d'esprit de distinction, donc que Honoré partage avec ses personnages, plus rien n'advient à l'écran.
Ah bon, moi je trouve très, très dur hein, quand même avec ce film. Moi je me suis fait sans doute avoir par ce film-là de Christophe Honoré, dont j'ai pas aimé tant de films que ça. Dans Paris reste effectivement un film qui m'avait beaucoup plu, et puis un autre dont j'oublie le titre présentement, où me semble-t-il il y avait Chiara Mastroianni.
La
sûr.
Princesse de Clèves.
Non, pas du tout.
Non, ma fille, tu n'iras pas.
Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Merci. La belle personne, vous parlez, c'était Léa Seydoux qui était le rôle principal. Alors, d'une part, j'ai lu avant de voir le film que Louis Garrel avait planté Christophe Honoré juste avant le tournage, et que voilà, ils sont pas plus les meilleurs amis du monde. Et moi, je suis très heureux que ce soit Pierre Delà Donchamp. Rien contre Louis Garrel, mais moi je trouve qu'il a une beauté absolument si forte que le magnétisme, en tout cas pour moi, agit. Donc je vois des personnages quand même à l'écran. Moi je suis très friand de Vincent Lacoste, que j'ai réévalué avec ce film là je pensais qu'il avait ce talent comique de celui qui n'articule pas toutes les syllabes, mais qui avait un charme, et que là j'ai découvert bien, bien plus imposant. Bon, Denis Podalydès, il est comme très 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 souvent exceptionnel, donc il fait ça comme il peut faire tellement d'autres choses. On a vraiment un acteur fabuleux dans ce pays, mais ça on le savait déjà. Et moi je crois que j'ai été sensible à une chose qui n'est pas très avouable, j'avoue, c'est qu'il y a en fait, je pense qu'il y a un côté Guitry homo, le goût de la réplique, le goût de ses relations, de Pygmalion, de dicter à la chose aimée ce qu'on doit faire, enfin etc. Un plaisir que j'ai très très fort en voyant les films de Sacha Guitry. Il y a quelque chose de cet esprit-là. Alors, même s'il filme la tombe de François Truffaut, notamment dans cette petite séquence du Père Lachaise, et aussi Dominique Lafin, ça m'a touché de voir évoquer cette actrice-là, voilà, qui est aujourd'hui, j'imagine, pas très présente dans les esprits. Il y a une sorte de raffinement à la française dans cette tradition-là qui s'origine bien plus lointainement que la Nouvelle Vague, qui, moi, m'a touché et séduit. Lucille Comeau ?
Oui, je vois ce que vous voulez dire, et je trouve que Vincent Lacoste s'en sort bien dans la construction de son personnage, parce que quand on connaît ce qu'il est dans les autres films qu'il a fait, il ajoute quelque chose pour le coup à sa palette, c'est la grâce, vraiment. C'est vraiment un personnage gracieux dans le film. Et vous parliez de distinction, moi c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié parce que j'ai l'impression qu'en dessous de toute cette beauté et de toute cette surface-là,
pointe quand même quelque chose d'une douleur. Alors peut-être que je la projette absolument parce que le contexte est celui-ci et qu'on connaît la nature un peu autobiographique du projet, mais j'ai l'impression que même si les contenus et qu'elle est contenue, la laideur, le pourrissement des corps, etc., il existe. On n'a quand même pas parlé d'un personnage qui s'appelle Marco, qui est l'ancien amant, qui littéralement revient crever, je crois que c'est la formule, chez son ami, parce qu'il n'a nul endroit où mourir. Et c'est vrai que tout ce passage-là, qui est sans doute le passage le plus poignant du discours de Marco qui annonce qu'il va mourir, se fait, et c'est symptomatique du film, enfin, c'est très révélateur, sur un répondeur téléphonique, comme une manière de vraiment ne pas l'entendre. Enfin, on ne veut pas entendre ça. Je pense que c'est vraiment un metteur en scène qui se met en scène lui-même en disant « je ne peux plus entendre ça ». Et je trouve ça touchant dans un second mouvement de perception du film. Mais je comprends aussi tout à fait ce que vous dites, Muriel, sur les personnages. Il y a, à mon avis, un énorme problème de construction des personnages. Il n'y a absolument aucun personnage, ce personnage de héros qui est quasiment de tous les plans, qui est joué par Pierre de La Donchamp, qui est beaucoup trop beau et tout le temps filmé de la même manière, ça il faut le dire aussi, avec les mêmes couleurs et la même lumière depuis L'Inconnu du Lac, il n'existe pas. Enfin, moi, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune information sur ce personnage.
On est d'accord là-dessus. Juste un mot, peut-être quand même, pour dire, on évoquait Fierté de Philippe Faucon. J'avais souligné qu'on ait retrouvé un jeune interprète de notre série bien-aimée Les Grands. Bingo, Les Grands 2 pour plaire, aimer, courir vite, puisque c'est Adèle Vismes, qui était un des rares personnages féminins qui est issu de cette même série, Les Grands, dont nous avons parlé ici, que personne, ou pas grand monde peut-être n'a vu, mais en tout cas, certains cinéastes ont repéré ces jeunes comédiens. Moi, ça m'a tout à fait réjoui. Puis bon, quand même, la bande originale, entendre un morceau de Cocteau Twins aussi bien dans le confort d'une salle de cinéma, c'est quand même un très gros plaisir. Et puis, il n'y a pas que cela. Je vais dire encore un mot, Mme Joudet.
Non, je repense à un flash de la scène où donc de La Donchamp marche donc dans les rues de Brest avec une femme un peu en surpoids, et je trouve cette scène ignoble.
C'est Marlène Saldana, elle est géniale.
Je trouve la scène ignoble.
C'est vrai.
Ouais, vraiment. Je trouve en fait le film est assez, en tout cas rien qu'avec ce truc, devient misogyne en fait.
Ah bon?
Bah, elle parle du fait qu'elle bouffe tout le temps et elle est assez. On a envie qu'elle parte puisque c'est l'enjeu de la scène, c'est qu'elle doit partir pour qu'il rejoigne son amant, et elle dit des choses stupides en marchant, en parlant de nourriture, et je trouve ça ignoble. Enfin voilà, c'est juste le flash que j'avais comme ça.
Pas du tout, Lucille.
Non,
comment?
Moi, je pense que c'est à nouveau dans la stratégie de la mise à distance absolue par l'humour plus outré possible pour vraiment, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment de la révélation, parce qu'on ne sait pas qui est Alcida. Et du coup, c'est vraiment un moment qui pourrait être un moment de dramatisation
très, très
absolue.
Drôle,
et c'est juste un personnage qu'on voit 3 minutes, minutes, et qui évacue le tout dans une sorte de, pas vraiment de bêtise, de coquetterie justement, qui joue la bête. Et je trouve pas ça, pour le coup, je trouve pas ça si bête que ça.
Corinne Rondeau, moi j'ai adoré, il faut être bien en parler, comme ça je cite Marlène Saldana, qui est une présence à l'écran extraordinaire comme elle l'a sur les scènes de théâtre.
Oui, ça c'est l'humour gay, on va dire. Et d'ailleurs, il est très attentif dans l'écriture, Honoré. Je veux dire, qu'il s'enfonce dans le romantisme, il le sait, il y a toujours un personnage qui dit « Oh, ça suffit les gars, là vous me saoulez ». Donc il est parfait, je veux dire, il est exactement l'endroit qu'il occupe. Je suis le gay, je suis le réalisateur, je suis l'auteur. Bon, ok, d'accord. Bon, après ça peut être un peu pesant. Hein. Ah. Mais, évidemment, culturellement...
Mais tout est parfait dans le film, c'est bien ça le problème.
Ah non, j'y vois pas ça. Hein. Mais Podalides, en cuir, toujours.
Vous attendez. Et sur les réseaux sociaux, Boris Pinot, pour finir cette séquence.
Patrick Braganti parle du retour en grâce de Christophe Honoré, qui vient avec ce film qui n'en manque jamais de grâce, malgré la dureté d'un sujet toujours traité avec élégance et humour. D'ores et déjà, ma palme d'or de l'année, écrit-il. Tout ce qui est montré semble faux, forcé, vain, d'un cynisme exagéré ou hors de propos. Tout en bref pue la posture, c'est signé Christophe Despeau. Et Pipo, encore un mot, la ville graphique est toujours aussi bien filmée chez Honoré. Lacoste est pétillant, de La Donchamp tragique, Podalides fidèle à lui-même et les seconds rôles ne sont pas en reste. Un très beau moment de cinéma.
Bon, des avis contrastés là encore pour plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Allez, on va changer de registre avec le troisième film au sommet de cette dispute. Deadpool 2, qui, comme son titre l'indique, je crois, succède à Deadpool, qui était pour moi l'un des films les plus drôles de 2016. Donc, il narre les aventures très malheureuses d'un super héros de super mauvais goût. Si le réalisateur a changé, c'est bien sûr Ryan Reynolds qui remet la combinaison moulante.
We're getting close. On est en approche. êtes tous briefés. On intercepte le convoi. Attention à cap.
Hit it.
Au revoir. Ce gamin est en difficulté.
Tu te dégages ou tu crèves.
Bolo sur la haine, Thanos. Je le protégerai contre Cable. Mais tout seul, je peux pas. Il faut du renfort. On va former un super méga groupe.
Ouais, on va refaire un tour sur LinkedIn. Je te présente Bedlam.
Je m'appelle Shatterstar.
Domino, j'ai de la chance.
La chance, c'est pas un super pouvoir.
Et côté sinoche, ça ne fait pas.
Mais si.
On n'a qu'à couper la poire en deux, c'est non.
Allez, en piste.
Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, put something for fear.
T'es pas un héros. T'es qu'un bouffon. Déguisé en jouet.
Tellement dark. T'es sûr que tu viens pas de l'univers DC Comics? Sors-moi le grand jeu, Willy le Borgne.
Oh! Yeah! Your bullets, they're really fast.
Et maintenant, pour couronner le tout,
Peter,
un super pouvoir quelconque, je sais pas?
Non, j'ai pas de pouvoir, non.
I just saw the ad.
T'as le poste.
You're in.
Corinne Rondeau va parler de Deadpool 2.
Alors le premier, j'avais trouvé que c'était le summum de la crétinerie. Celui-ci, disons que j'ai ri, parfois, plutôt à la fin, peut-être d'épuisement. Donc je me suis abandonnée aux forces vives du film. Celui-ci, alors j'ai quasiment aucun souvenir du premier. Hein. Ah ouais, vraiment. Et donc le second, je dirais que je l'ai vu ce matin, mais que je ne me rappelle plus trop. Mais il y a plus d'action que le premier, si. Et je trouve que.
Ça, c'est de la critique, ça.
Mais j'ai rien à dire, en fait, sur le film. Non, mais ces scènes d'action sont vraiment pas du tout bien, je trouve. Elles sont.
D'accord.
Alors, bah, écoutez, le film là. Nous prend. Je dirais que le film nous prend tout de suite sur un suspense, c'est-à-dire ça commence avec le suicide. Et donc, il reste 1h50. Donc, que vous dire, c'est un film sur la famille et sur l'enfant. Il faut les sauver. Non mais vraiment, je n'ai... Non mais vraiment...
Ça ne produit rien sur vous.
Ça... Non mais j'ai beaucoup ri sur la scène du parachute.
Bon.
Où là, je n'ai pas cédé.
Cessez de rire. Bon, on a perdu Corinne.
Et sur
déjà.
J'arrête les balles avec le samouraï.
Bon, d'accord. Ok, elle s'en souvient un peu. Muriel Joder a peut-être construit une critique sur Deadpool 2.
Oui, alors que pourtant, je n'ai pas vu un blockbuster depuis des décennies, mais...
Bon, vous rigolez, vous voyez tous les Spielberg que vous adorez.
Ah oui, non, mais disons, les films de super-héros, je veux dire. Avengers, tout ça, voilà. Non, ça va être le club des mamies, ça va être terrible. Et donc, non, en fait,
vous n'avez vu aucun X-Men, aucun...
Non, rien du tout.
Non, moi, c'est bon, j'ai tout vu.
Bon,
mais,
aussi.
Donc, alors, comment dire, la relecture parodique, je me suis dit que ça n'allait pas être pour moi. Et en fait, je trouve ça vraiment extrêmement plaisant. C'est tellement n'importe quoi, le scénario est tellement nonchalant, on sent vraiment, parce que Deadpool fait tout le temps des références un peu comme dans Tex Avery, comme c'est très post-moderne, aux scénaristes qui ont consommé des substances, et en fait on imagine plein de scénaristes autour d'une table qui écrivent n'importe quoi et ensuite qui mettent des millions pour réaliser ces idées, et je trouve ça assez jouissif.
C'est réjouissant.
Oui. Non, c'est totalement réjouissant.
On peut
en fait.
Douter que ce soit le cas.
Ouais, enfin... je pense pas, non.
Non, mais disons qu'il y a un art dégénéré du récit qui, en fait, est tellement libre qui fait que le film n'est pas du tout formaté. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film. C'est que c'est tellement n'importe quoi, comme si, en fait, le film avait tellement d'énergie à dépenser et qu'il devait absolument les dépenser pendant 2 heures qu'à partir du moment où donc, la jeune femme, la bien-aimée de Deadpool meurt...
Vanessa.
Ça annonce le début des hostilités et ça devient vraiment n'importe quoi. Et je trouve ça vraiment très plaisant. Et ça m'a un peu réconciliée avec les films de super-héros, même si j'ai
bien
conscience...
Bon, n'allez pas voir les autres, hein, parce qu'ils n'ont rien à voir. Hein.
J'ai trouvé très judicieux la manière dont le film agence à la fois des blagues très politiquement incorrectes, qui n'a plus trop sa place à Hollywood, et en même temps, réussit habilement à remplir le casting, enfin, à règle la question.
Corinne Rondeau rigole encore.
Je crois que Corinne se rend compte qu'elle n'a pas vu le film, en fait.
Non, elle se souvient de scène maintenant.
C'était l'autre salle, en fait.
Elle revoit des images.
Et règle la question des représentations, donc ce qu'on appelle les minorités, de façon très adroite. Hein. Donc on a un petit enfant... qui doit être indien, qui est assez, assez en surpoids. Une femme noire qui donc a le pouvoir.
Plutôt latino, hein, l'enfant.
Oui, pas du tout indien.
L'Indien, c'est le chauffeur de taxi. Hein.
Mince, pas changé de seul.
Bref, oui. En tout cas, il y a à la fois les questions de représentation sont réglées et en même temps, à côté de ça, on a du politiquement incorrect. Et je trouve que les deux sont mélangés de façon très habile.
Lucille Gomo, pas tout à fait d'accord,
non,
mais qui a envie de rire
pas
aussi.
Pas du tout d'accord. Alors moi, pour le coup, qui fréquente quand même beaucoup ce type de films de super-héros, en effet, il y a un côté extrêmement métadiscours permanent de florilège, de référence. Ça commence avec un générique de James Bond détourné. Il y a du Terminator, il y a du X-Men, il y a tous les héros, les super-héros de Marvel qui sont convoqués, avec à chaque fois des détournements qui sont en effet sur le mode de l'humour hyper graveleux. Ça ne m'étonne pas que ça vous ait plu, Muriel. Extrême, qui mêle toujours des références sexuelles avec le scatologique. Enfin, il y a vraiment un créneau. Donc c'est assez drôle, moi, je trouve, parfois, mais c'est vrai que c'est très fatigant. Et surtout, le problème d'abord de ce genre de film, c'est que construire avec uniquement des blagues, en fait, c'est pas possible. Donc il faut quand même un scénario. À partir de là, en fait, le film nous sert un scénario qui est exactement le scénario de tous les films de Marvel. C'est-à-dire, en effet, comme le disait Corinne, qui revient au final à toutes les grandes valeurs que sont la famille, l'enfant d'abord parce que c'est notre continuité en tant qu'humain, le couple, enfin je veux dire toutes les grandes valeurs du film type de super-héros Marvel sont les valeurs qui sont défendues in fine par le film. Donc on voit, moi je trouve, mais parfaitement illustré dans Deadpool 2, la capacité mais incroyable du cinéma américain à nous faire croire qu'il se moque de lui-même, qu'il se subvertit. Et donc, dans cette machine de subversion, enfin vraiment, recrache exactement un film hollywoodien fait pour fonctionner de la même manière, avec les mêmes ressorts scénaristiques, les mêmes valeurs, etc. Donc, c'est pas désagréable. Hein. Moi, j'ai ri à plein de moments. Mais vraiment, sur le fond, il faut pas dire que c'est un film dégénéré. C'est un film qui rentre totalement, mais à mon avis, à tout point de vue, dans les codes du film de super-héros, qui par ailleurs, dans l'histoire même du genre, est un cinéma qui de toute façon se moque de lui-même, fait des références multiples aux autres super-héros. Je veux dire, ça a toujours existé. Donc le fait de faire des blagues et le méta, etc., c'est même pas si neuf dans la tradition du film
Marvel.
Non,
ça n'est pas neuf, et je doute que tous les critères soient absolument ceux des films habituels de super-héros, mais vous pointez là le problème majeur de ce Deadpool 2, qui effectivement promeut des valeurs qui étaient quand même très absentes du premier, que moi j'ai revu deux ou trois fois et que je trouve toujours aussi dégénéré et pour le coup là, partait n'importe où et qui a fait ce succès très inattendu à l'échelle mondiale. Et le fait est que j'ai lu que Ryan Reynolds cette fois-ci faisait partie des scénaristes, donc l'acteur, producteur et également scénariste de ce deuxième volet, ce que je trouve un peu dommage. Le metteur en scène a changé, je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'énergie et d'imagination graphique dans les scènes d'action du premier volet de Deadpool que dans celui-ci, qui sont quand même beaucoup plus habituels, enfin beaucoup plus déjà vus. Je pense qu'il a perdu beaucoup de son acidité, beaucoup de son politiquement incorrect. Il en reste un petit peu, donc beaucoup plus que dans beaucoup d'autres films. Mais il y a une dévitalisation quand même, ce qui me fait évidemment peine. Lucille Gomo ?
Oui, ce qui reste, qui est intéressant et qui m'a encore un peu tenu en intérêt pendant le film, c'est le corps de ce super-héros qui est extrêmement féminisé et dès le générique, parce qu'en fait, dans le générique, c'est vraiment
les poses
le
lassives.
Corps, voilà, qui sont les poses des femmes, des James Bond
Girls,
normalement. Voilà,
oui.
Exactement. Et ça, la sexualisation extrêmement féminine, très ambiguë du personnage, ça m'intéresse. Je trouve que son corps en soi est un objet de spectacle intéressant et pour le coup peut-être un lieu de subversion ou au moins d'invention d'autres choses sur le super-héros.
Noël Joudet ?
C'est vrai que c'est pas du Paul Verhoeven, mais c'est, y a, évidemment, y a,
non, en effet,
c'est absolument crétin, mais c'est ça qui est bien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de blagues, mais justement, ce que j'apprécie dans le film, c'est son absolu manque de dosage. C'est-à-dire que c'est des blagues tout le temps, c'est à la mitraillette et on n'en peut plus et ça continue. Et à un moment, ça se finit, et en fait, ça se finit pas. Et c'est ça que j'aime dans le film, c'est le côté vraiment débauche d'énergie. Dépenses perpétuelles.
Mais moins que dans le premier, je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps à partir. Il faut une bonne demi-heure avant que les actions s'enclenchent parce qu'il faut avoir le moment de romantisme qui n'existait pas. Le romantisme traité dans le premier Deadpool, c'est quand même pas la même chose.
Mais romantisme, une histoire d'amour dans le premier.
Oui, mais vous savez ce qu'il fait hein, tous les jours. Bon, enfin, on revient sur le premier Deadpool, dont Corinne Renaud ne se souvient pas, parce qu'elle ne se souvient même pas de celui qu'elle a vu ce matin.
Il avait une vitalité, voilà. Il était délirant, enfin il était à côté.
Débordé.
Ça, celui-ci est d'une sagesse absolue par rapport au premier. Et il est vraiment grand. Alors, le côté revenir, histoire d'amour, ça me fait penser à ce film là, vous savez, Ghost. Ouais. Enfin, c'est ça. Enfin, il y a tout le temps du pastiche en permanence là-dessus. Bon,
absolument.
Mais bon, moi, j'ai beaucoup aimé la séquence où il a le bas du corps qui repousse.
Le bas du corps qui repousse. Parce que Deadpool est immortel, ce qui est assez pratique,
oui,
en effet.
Mais
et
sinon,
quand on le coupe
briser,
en deux, il faut que les jambes repoussent.
Voilà, il faudrait que
les jambes d'enfant.
Le réalisateur Deadpool 2 regarde le film de Brisé pour savoir si les ralentis de Brisé ne sont pas pourris, puisque le personnage demande oh, j'espère qu'il n'a pas pourri le ralenti, là.
Ben oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Non,
je vois
c'est
très
pas
bien.
Grave.
Et Lucille, comment je voulais dire un mot microscopique?
Oui, non, mais justement, moi, paradoxalement, ce qui m'a le plus plu dans ce film-là, c'est la première séquence qui est une sorte d'alternance de scènes d'action qui sont pour le coup pas mal faites, où Deadpool tue des yakuza, des mafieux siciliens, enfin toutes les mafias possibles et imaginables dans le monde, qui sont totalement premier degré. Et je trouve que finalement, c'est ce qu'il y a de plus réussi, donc pas très bon signe au final.
Ouais, moi, ça m'a pas plu au début, vous voyez. Bon, Deadpool 2, allez voir par vous-même le film de David Leitch qui est sorti mercredi. Dans les salles. Et nous concluons, comme chaque soir, avec Camille André qui nous a rejoint pour aborder la séquence que vous attendez, le jeu de la dispute. D'abord, retour sur la question d'hier et sa réponse, donc, Camille.
Eh bien, on se demandait hier quel roman a pour sujet la mafia napolitaine appelée la Camorra. Il s'agit de Gomorra, de Roberto Saviano.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Vils, fragments urbains au 104 à Paris jusqu'au 29 juillet. Quelle est la question?
Eh bien, quel célèbre street artiste, à côté duquel Vils fut exposé, a réalisé le documentaire Faites le mur?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de lundi 19h qui sera consacrée au théâtre. On sera en compagnie de Lucille Como, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillé. À notre affiche Bérénice de Jean Racine, ça nous changera de Deadpool. Mise en scène Célie Pote, c'est au théâtre de l'Odéon. Parole gelée d'après François Rabelais, mise en scène Jean Bellorini au théâtre Gérard Philippe. Et puis L'Oiseau Vert de Carlos Gozzi, mise en scène Laurent Pellier au théâtre de la Porte Saint-Martin.